Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce 16 janvier, les avocats de Novak Djokovic présentent leur dossier pour permettre au numéro 1 mondial de tennis de rester dans le pays et de disputer l'Open d'Australie. Le Victoria reçoit sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides. En France, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a officialisé sa candidature pour la présidentielle de 2022. Les avocats de Novak Djokovic présentent leur dossier pour essayer de permettre au numéro 1 mondial de tennis de rester en Australie et de disputer l'Open d'Australie. L'avocat de Novak Djokovic, Nicholas Wood, tente de réfuter l'argument du ministre de l'Immigration, Alex Hawke, selon lequel la présence de Novak Djokovic en Australie pourrait susciter un sentiment anti-vaccination. Selon lui, le ministre Hawke n'a pas envisager ce qu'il décrit comme un scénario alternatif, la possibilité que l'annulation du visa de Djokovic puisse en soi générer un sentiment anti-vaccination. Nicholas Wood a fait référence à plusieurs articles de presse dont la BBC, ABC et The Guardian sur les déclarations passées de Novak Djokovic sur les vaccins qui, selon lui, sont la seule forme de preuve que Alex Hawke peut fournir et ne sont pas suffisantes car il suggère que Novak Djokovic a dit qu'il n'était aucun expert, mais voulait faire ce qu'il y avait de mieux pour son corps. L'affaire est entendue par la formation complète de 3 juges de la Cour fédérale en ce moment même. Le coronavirus en Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, signale 20 décès suite aux infections du Covid-19 et 34 660 nouveaux cas ce dimanche. Il y a eu 2650 hospitalisations, dont 191 en soins intensifs. Le Victoria a enregistré 13 décès et 28 128 nouveaux cas de Covid-19 et 122 personnes en soins intensif. Le Victoria a reçu sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides sur un total de 44 millions d'échantillons. Les tests seront distribués aux travailleurs clés à partir de demain, lundi, y compris les travailleurs essentiels du système de santé, des services d'urgence, du secteur des personnes handicapées et des personnes et des soins aux personnes âgées. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, déclare qu'il s'attend à ce que l'approvisionnement total arrive fin janvier ou début du mois de février.
We anticipate having all of those 44 million here based on advice we have as of yesterday by the end of this month or very early February. We'll try and keep you updated as best we can. 3 million is a significant first batch and that takes some pressure off other supply chains, other rapid antigen test providers. That'll be 3 million tests that don't have to be sourced elsewhere, so that alleviates pressure. And we do acknowledge that there is some pressure across the board for these products.
Les professionnels de la santé en Nouvelle-Galles du Sud s'inquiètent des faibles taux de vaccination dans le nord de l'État. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, a déclaré que le personnel de santé l'avait contacté pour exprimer leur inquiétude.
They have major concerns in the northern part of New South Wales because of the relatively low rate of vaccination. And that emphasizes the message that Dr. Chant was just talking about, the need to get vaccinated. We know that people who are vaccinated do far better when it comes to defeating this Omicron and indeed the other variants of the virus.
Le gouvernement fédéral débloque 24 millions de dollars pour financer les services de télésanté, y compris la fourniture d'équipements de protection individuelle et un soutien en ligne supplémentaire. Il s'appuie sur les 34 millions de dollars déjà fournis depuis le début de la pandémie. Le financement supplémentaire soutiendra les modifications temporaires de la télésanté conçues pour donner aux médecins généralistes et aux spécialistes la capacité de gérer les patients Covid-19 à domicile présentant des symptômes légers. Il s'agit d'un effort pour soulager la pression sur les hôpitaux au milieu de la vague actuelle d'infections, ainsi que le manque de personnel dû aux mesures d'isolement. Cela survient alors que 58 837 cas ont été signalés à l'échelle nationale hier, samedi. La Chine a créé, je cite, « une boucle fermée à Pékin, une bulle impénétrable pour accueillir des Jeux olympiques d'hiver sans Covid ». L'événement commence le 4 février prochain, mais la Chine connaît des épidémies de coronavirus dans plusieurs villes, y compris ses premiers cas transmis localement de Omicron. Les athlètes et les participants resteront dans le circuit fermé pendant les Jeux, loin du reste du pays. Mais le fondateur de China Sports Insider, Mark Dreyer, a déclaré que la poursuite des JO d'hiver sans Covid va s'avérer difficile.
There will undoubtedly be cases inside the Olympic bubble. So what happens then? How many cases will there be? How quickly will it spread? Can they isolate and get people into hotel rooms or hospital rooms quickly before it spreads to other people?
Environ 20 millions de personnes sont actuellement confinées dans trois villes en Chine. Reportage de Léo Sira pour Radio France Internationale.
À chaque fois qu'un nouveau cas est annoncé, c'est la même inquiétude. À Shanghai, jeudi soir, les autorités ont confirmé 5 cas de Covid liés à un malade de retour des États-Unis et cela suffit à rendre la vie des Shanghaïens plus compliquée. Des quartiers sont confinés, des écoles fermées le temps d'effectuer des tests et accéder à certaines villes comme Pékin relève du parcours du combattant. Xi'an, Tianjin, Anyang, Dalian, Hangzhou, Canton, Shanghai et aujourd'hui Zhuhai, la liste des foyers s'allonge de jour en jour, mais la Chine campe sur ses positions. À chaque fois, elle teste massivement et confine des milliers, voire des millions de personnes. Omicron, plus contagieux, mais moins dangereux que les précédents variants, change-t-il l'équation ? Pour l'instant, à 3 semaines des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, la Chine redouble de sévérité et même par la suite, changer de stratégie ne sera pas facile. Car si les Chinois sont vaccinés à 86%, leurs vaccins sont d'une efficacité limitée. Abandonner toute mesure pourrait jeter des millions de personnes dans les hôpitaux. Impossible à envisager pour les autorités qui ont insisté sur le chaos et le nombre de morts en Occident pour mettre en avant, au contraire, le succès de la gestion de l'épidémie par le Parti communiste.
Le Covid-19 en France et des milliers de passes sanitaires seront désactivés ce dimanche 15 janvier en l'absence de rappel vaccinal. Hier, il y a eu des milliers qui se sont fait vacciner. Laurent Di Fraia, RFI.
Virginie sort de cette pharmacie du 15e arrondissement. Elle vient de faire sa troisième dose, un geste désormais indispensable pour pouvoir continuer à bénéficier de son précieux sésame.
Pour moi, c'était important de conserver un pass sanitaire et de pouvoir continuer à aller dans un bar, boire des coups avec des amis ou au restaurant. Même s'il faut en faire 4-5 derrière, clairement, je vais les faire juste pour continuer à avoir une vie sociale et à vivre vaguement normalement, on va dire.
La plupart ont pris les devants pour ne pas être hors délai. C'est le cas de Mathieu, ce jeune Parisien qui lui aussi veut continuer à vivre sereinement.
Je ne suis pas concerné par cette échéance-là parce que j'ai justement fait ma troisième dose pour éviter de ne plus avoir de passe sanitaire à partir du 15. Là typiquement, je vais prendre l'avion là ce soir et j'ai besoin du passe sanitaire donc, pour tout. Et puis même, j'ai envie de dire au boulot, pour rassurer aussi les proches. Moi, pour moi maintenant c'est nécessaire, on ne peut pas s'en passer malheureusement.
Les Français avaient 7 mois pour effectuer leur dose de rappel vaccinal. À partir du 15 février, ils n'auront plus que 4 mois pour être en règle.
Les présidentielles en France avec à gauche 9 candidats en lice. Hier, Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, était à Lyon où elle a déclaré sa candidature. Aurélien Devernoy, RFI.
Un revenu universel jeune de 800 euros pendant 5 ans, plus de TVA pour l'agriculture bio, un salaire minimum net de 1400 euros ou encore le recrutement de 100 000 soignants. Christiane Taubira a mis des chiffres dans son lyrisme, histoire de mettre fin aux critiques sur son absence de programme, mais avec un maître mot, le dialogue.
Nous allons faire tout cela ensemble, parce que nous en sommes capables. Nous allons le faire en discutant. En nous disputant parfois, ce sera le ressort de ma présidence.
Faire ensemble face à une pratique du pouvoir qui s'est dévoyée, selon l'ancienne ministre de la Justice.
Nous voulons un gouvernement qui sache dialoguer au lieu de moraliser, de caporaliser.
Cette dérive, Christiane Taubira affirme pouvoir y répondre, du fait notamment de son expérience de femme d'État.
Je sais la nécessité de répondre aux missions régaliennes. Je sais qu'elles peuvent être lourdes. Oui, j'étais garde des Sceaux lorsque nous avons dû affronter les attentats les plus meurtriers de notre histoire.
Une manière aussi de se placer au-dessus de la mêlée des candidats à gauche. La question de l'union n'a d'ailleurs fait l'objet que d'une brève allusion. Christiane Taubira veut parler à tous les Français.
J'ai besoin de vous.
Mais avant de rassembler au-delà de son camp, il faudra déjà s'imposer à la primaire populaire de la gauche dans 2 semaines.
Le dirigeant travailliste en Grande-Bretagne, Keir Starmer, a renouvelé ses appels à la démission du Premier ministre Boris Johnson à la suite de nouvelles allégations de fêtes organisées dans des bâtiments du gouvernement pendant les lockdowns dus au Covid-19. Keir Starmer affirme que les actions du Premier ministre ont sapé la confiance du public dans le gouvernement.
The moral authority matters in relation to enforcing the COVID rules, but we've got other massive challenges facing this country, massive challenges. We've got a Prime Minister who is absent, you know, he's literally in hiding at the moment, and unable to lead. And so that's why I've concluded that he's got to go.
Et maintenant, on écoute le reportage de Sidonie Gaucher pour RFI.
L'image contraste et agace. Le 17 avril 2021, on voit dans les journaux la reine Elisabeth II assise seule devant le cercueil du prince Philippe. Seule en raison des restrictions sanitaires. Pourtant, la veille, la musique résonne dans 2 Downing Street. Un DJ set assuré par Shelley Williams-Walker, la conseillère spéciale du Premier ministre. Selon le Mirror, Boris Johnson encourageait son équipe à lâcher la pression en fin de semaine lors de ses apéros du vendredi. On parle d'une quinzaine de fêtes si fréquentes que l'équipe ministérielle allait se ravitailler au Tesco du coin avec une valise. Est-ce la goutte qui fera déborder le verre ? De tous bords, on appelle à une démission de Boris Johnson et la presse anglaise ouvre déjà les paris sur un ou une potentielle remplaçante. Et se demande même si la reine a le pouvoir de renvoyer un Premier ministre. Cela n'est pas arrivé depuis 1834.
En Tunisie maintenant, avec près de 12 journalistes qui ont été victimes de violences aux mains de la force policière. Écoutez Souayeb Kayati, directeur du bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières.
L'unité de monitoring du syndicat national des journalistes tunisiens a recensé plus d'une vingtaine d'agressions. Les plus graves sont celles dont étaient victimes 4 journalistes, dont Mathieu Galtier, qui est le correspondant de RFI, Libération et d'autres médias internationaux en Tunisie, alors qu'il était en train de filmer l'arrestation d'un des manifestants. C'est là qu'il a été agressé par un policier alors qu'il portait le dossard de journaliste. Il a bien expliqué qu'il était journaliste, aussi bien en arabe qu'en français, mais les policiers l'ont quand même plaqué par terre et roué de coups, secouru par les pompiers. On lui a rendu après coup ses effets personnels dans son téléphone, mais sans la carte mémoire avec laquelle il filmait les arrestations et surtout la riposte ultra-violente des policiers envers les opposants du président Saïd.
Le Congrès américain a ordonné au département d'État de produire un rapport détaillé sur les circonstances de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet dernier. L'enquête est au ralenti en Haïti, comme nous l'explique Stéphanie Schuller pour RFI.
La loi bipartisane adoptée par le Sénat en cette fin de semaine doit encore repasser par la Chambre des représentants, mais une fois promulguée, le département d'État américain disposera de 3 mois. 3 mois pour fournir un rapport sur les circonstances qui ont mené à l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, sur les auteurs et les commanditaires du crime, mais aussi sur les éventuelles pressions qui ont pu peser sur les enquêteurs haïtiens. Les sénateurs veulent également savoir si une quelconque ingérence a pu entraver l'enquête officielle en Haïti ou si certains auteurs de l'assassinat ont pu être, par le passé, employés par le gouvernement américain. Immédiatement après le meurtre du président haïtien, des agents du FBI avaient été dépêchés à Port-au-Prince pour collaborer avec les autorités haïtiennes. Mais force est de constater que l'enquête en Haïti s'enlise, à l'instar d'autres enquêtes sur d'autres crimes graves. En 2018, à La Saline, un quartier pauvre de la capitale haïtienne, un massacre avait fait plus de 100 morts. Là encore, les sénateurs américains en demandent un rapport détaillé au département d'État.
L'ancien géologue en chef des îles Tonga a décrit l'éruption d'un volcan sous-marin au large des côtes de l'île comme totalement unique. L'explosion a déclenché un tsunami avec des avertissements pour la côte est de l'Australie et des avertissements pour l'île de Norfolk et l'île de Lord Howe. L'ancien géologue en chef du royaume des îles de Tonga, le professeur David Tappin, a déclaré que l'éruption ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 32 degrés, Adélaïde 31, Melbourne 28, Hobart 24, Canberra 29, Sydney 28, Brisbane 33, Cairns 33, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce 16 janvier. Les avocats de Novak Djokovic présentent leur dossier pour permettre au numéro 1 mondial de rester dans le pays et de disputer l'Open d'Australie. Le Victoria reçoit sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.